Marc et Smart et bienvenue dans Talking Catch numéro 6, votre émission désormais mensuelle de news sur le catch animée par la team Cashup. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Ringside.
Salut les amis.
Salut les petits amis.
Les petits potes.
Mes petits potes. Alors mes petits potes, donc je vais quand même vous raconter pour les gens qui prennent le train en marche. Talking Catch, c'est quoi? Bah, c'est l'émission de news et débat mensuel de l'équipe de Catch Up, des cahiers du catch, donc où l'on condense l'actualité du mois passé. On donne notre avis sur les nouvelles marquantes du monde du catch, de la WWE à la New Japan, en passant par Global Force Wrestling. Si vous ne savez pas ce que c'est la TNA aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec la news number one. La news la plus marquante du mois dernier, enfin, ou du moins des 4 dernières semaines. Certains diront autre chose, mais quand même, l'annulation de Talking Smack plutôt, qui a été annoncée le 14 juillet hein, pour notre fête nationale. L'émission chouchou hein, des Smarts sur le WWE Network. Qui donc était diffusée après SmackDown, a été annulée, d'après toutes les sources possibles dans le monde du catch, par Vince McMahon, après qu'il l'ait regardé pour la première fois. pour les gens qui ne l'ont pas vu, donc Talking Smack, que je ne me gourre pas, hein, parce qu'on a pompé le nom de l'émission, donc à chaque fois... c'était une émission où... il y avait des interviews en fait juste après SmackDown avec très peu de script en fait. De base en fait c'était Renee Young et Daniel Bryan, hein, nouveau GM de SmackDown, qui étaient là un peu pour mettre sur le grill les superstars qui passaient. On a eu ensuite, après Daniel Bryan, il me semble, il y a eu Shane McMahon, il y a eu JBL aussi, il y a peu de temps, bon, qui était un peu qui était moins bon. Hein, vraiment le charme de Talking Smack, c'était un peu Daniel Bryan. Et donc, l'émission a fait beaucoup de bruit suite au passage, surtout du Miz, hein, pendant plusieurs semaines, qui a insulté Daniel Bryan, qui allait dans le shoot, comme on le dit, dans la réalité de sa situation de mec frustré qui accepte quand même un job à la WWE, mais qui pourrait encore catcher. Mais voilà, le salaire est plus important que tout. On a eu aussi Baron Corbin hein, qui a eu des bons passages là-bas en mêlant un peu sa propre vie, sa propre personnalité avec son personnage. Et Kevin Owens aussi qui aime beaucoup martyriser Renee Young à chaque passage. Donc on retrouvera néanmoins Talking Smack les soirs de pay-per-view de SmackDown, tout comme l'émission que vous n'avez pas regardée qui s'appelle Raw Talk, qui est après les pay-per-views de Raw, mais généralement il s'y passe vraiment rien. Ils ont juste essayé de faire la même chose. Ce qui est assez ironique, c'est qu'ils ont commencé par copier Talking Smack pour maintenant le supprimer. Donc c'est étrange. Donc Ringside, ma question pour cette news, grande perte pour le network ou émission déjà à bout de souffle?
Sans Daniel Bryan, ça perdait quand même pas mal de son intérêt, l'émission. Après, moi, je n'étais pas un gros suiveur non plus. Je trouvais que ça aurait été plus intéressant d'intégrer toutes ces séquences directement dans SmackDown. Mais bon, c'est sûr que SmackDown est un peu bouché à ce niveau-là. Il y a un manque de temps d'antenne. Apparemment, c'était beaucoup de complications pour pas grand-chose, peu de vision. Mais ça a quand même fait beaucoup de bruit, le fait que ce soit arrêté. Hein. Enfin, visiblement, les gens étaient très, très mécontents sur Internet. Ça a pleurniché. Pour moi, j'étais pas un très grand fan, donc ça va pas énormément me manquer. Mais je pense que il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient attachées à cette émission, et je pense que c'est un peu dommage de la laisser filer comme ça. Ça va faire des mécontents, c'est sûr.
Ouais. Moi, c'est un peu pareil en fait. Je pense que j'ai arrêté de regarder quand justement j'ai commencé à moins regarder SmackDown parce que ça me plaisait moins. Il y a environ, je pense, 2 mois, donc du coup, fin mai, un truc comme ça. Faut avouer que c'était assez inégal. C'était une question d'inviter en fait. Il y a eu toute une période où il y avait le Miz quasiment toutes les semaines et ça c'était genre inratable. Enfin, toutes les émissions dans cette période-là étaient géniales. Pour le coup, c'était des moments, même si SmackDown était plutôt bon, c'était des moments qui étaient encore meilleurs que le show principal, quoi. C'était, y avait vraiment des passages qui construisaient les personnages et on se demandait même pourquoi ils arrivent à faire autant de choses dans une émission qui dure. Je crois que donc Talking Smack, ça a duré une demi-heure. En une demi-heure de Talking Smack, des moments, ils développaient un personnage genre Baron Corbin ou autre. Ils développaient genre deux fois, trois fois plus qu'en une, je sais pas, qu'en 3 semaines d'émission enfin, d'émission normale de SmackDown. Parce que justement, les réponses des catcheurs n'étaient pas chronométrées, ils n'avaient pas forcément de phrases prédéfinies. Donc du coup, il y avait un vrai échange de temps en temps des échanges. Enfin bon, on parlait du Miz, mais il y en a eu d'autres, des échanges qui étaient pas qui foutaient limite le malaise. Quand il y a certaines superstars qui sortent des trucs où tu te demandes est-ce que c'est leur personnage ou alors ils sont frustrés parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Daniel Bryan est un troll ultime. Daniel Bryan passait son temps à troller les superstars, à essayer de jouer sur leurs personnages pour les énerver. Donc genre leur expliquer mais pourquoi t'as abandonné, genre pourquoi tu t'es tiré du match alors que juste avant tu disais que machin. En clair, Daniel Bryan jouait le fan de, il jouait le smart qui vient après le show et dire ça c'est pas cohérent, ça très. C'était et c'est ce qui faisait la particularité de l'émission et sûrement pourquoi elle était annulée aussi. Je pense pas que ça coûte très cher à faire par contre, parce que ça reste juste faire tourner les caméras en fixe, hein. Il y a peut-être deux caméras pour cette émission.
Ouais, mais ça demandait à ce que les superstars restent après les shows, etc. C'est quand même une logistique assez importante qui, d'après Jerry Lawler, hein, c'est lui qui a donné cette explication, que c'était beaucoup quand même de complications. C'est un show qui est assez compliqué à faire, qui force les stars à rester après les matchs, voilà, en fin de journée, encore un peu plus longtemps. Il faut qu'il reste dans le personnage, il faut qu'il voilà, qu'il continue à faire le boulot après les heures de boulot, en quelque sorte. Donc voilà, c'était beaucoup de complications pour finalement peu de succès sur le network. Je pense que c'est ça qui a fait tourner la balance. Et puis le fait que ce soit pas scripté, alors pour nous, c'est bien le fait que ce soit pas scripté parce que ça donne un peu un petit vent d'air frais comme ça, hein. On voit un peu de quoi sont capables certains qui sont un peu plombés par les scripts qu'on leur donne. Maintenant, effectivement, ça plaît pas trop à Vince, hein, je pense. De toute façon, il aime bien que tout soit cloisonné. Voilà, c'est un petit terrain de jeu, mais si ça entraîne trop de complications, ben, pour lui, il voit pas l'intérêt. Et puis voilà, on voit quand même qu'il y a une cassure toujours entre ce monde du network et puis ce qui se passe à la télé et dans les pay-per-view. Il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression, moi.
C'est l'heure de lancer. Je vais trouver une musique pour ce segment, hein, vous inquiétez pas. C'est l'heure de lancer un nouveau segment de ce show pour la news numéro 2. C'est la news Paggio! Là, vous avez une musique normalement derrière ce que je suis en train de raconter. Donc, la news Paggio, comme vous ne l'avez pas encore deviné, c'est la news Paige et Alberto Del Rio. Chaque semaine, Paige et Alberto Del Rio vous offrent le meilleur de la news trash. Alors, ces dernières semaines, bah, la grande histoire entre Paige et Del Rio, c'est une histoire de violence conjugale à l'aéroport d'Orlando le 9 juillet. Hein, y a eu des témoins d'une embrouille entre Paige et Del Rio, une affaire qui est partie avec des sources un peu floues, hein, principalement TMZ, qui est spécialiste un peu de. C'est un peu les meilleurs paparazzi des États-Unis. Et donc, on a pendant un temps cru que c'était Alberto Del Rio qui allait être. J'allais dire chargé, je vais faire des anglicismes, qui allait être accusé voilà, de cette violence, et sous cette espèce de rumeur, news rumeur, Global Force Wrestling, hein, donc ancienne TNA, je le rappelle, a décidé de suspendre Del Rio. Donc dès le 12 juillet, hein, ils sont allés vite, au bout de 3 jours, ils l'ont suspendu jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie. Mais on a appris ce mois-ci, donc je parle bien du mois de juillet, que ce n'est pas Del Rio, mais bien Paige qui est suspecte dans cette affaire. D'ailleurs, Paige sur Twitter a confirmé que c'était elle qui avait, je sais pas, frappé peut-être son copain, j'allais dire son mari.
LUH.
Si c'est son mari maintenant?
Non,
je
ils sont
plus.
Pas mariés.
Ils sont fiancés. Là, ils sont fiancés, c'était une proposition officielle.
Elle lui a jeté un verre de bière au visage.
C'était juste ça?
Je crois, hein, c'est ce que j'ai lu.
Un verre de bière dans un aéroport? Mais donc, c'est le procureur général, enfin, entre parenthèses, state attorney, qui doit décider si donc Saraya Bevis, le vrai nom de Paige, doit passer devant un juge. Et comme nous ne faisons pas les choses à moitié à Talking Catch, nous avons sorti nos longs manteaux, nous sommes allés enquêter, et j'ai trouvé sur le web ce que Paige peut encourir avec domestic battery, comme ils disent. Donc, d'après le cabinet d'avocats Hussein & Weber, la violence conjugale en Floride peut amener à 12 mois de sursis, probation, 5 jours de prison, je l'ai mal traduit, mais une injonction elle doit rester à distance de la personne, et 26 semaines de rééducation dans un programme spécialisé. Alors, Ringside, ma question pour cette news, tu prédis un départ de Paige de la WWE avant ou après la sortie de son film payé par le Rock?
Bonne question. Comment ils vont faire avec cette histoire-là? Parce qu'il va falloir le vendre, le film. Ils vont pas passer à côté de cette publicité gratuite, mais en même temps, c'est un boulet, cette Paige. Ouais, je sais pas. Je sais pas. À moins que. Mais là, elle a l'air d'être au fond du gouffre. Il y a des photos qui sont passées où elle a l'air rachitique. Donc, je vois pas pourquoi The Rock s'est emmerdé à faire un film sur elle. Mais. Bah, écoute.
Bah là, non mais là on avait, je sais pas sur quoi il est parti comme idée de film, mais alors là on a le Rise and Fall.
Ouais.
Hein,
là, il pourra rajouter effectivement une fin.
Ah si, il rajoute. Là c'est limite, je pense, il est en pause, il fait on arrête le tournage, on attend que ça se finisse, et puis on va faire une épopée là.
Ah, parce qu'il s'est basé sur un documentaire qui avait été fait déjà sur Paige. Voilà, il a vu le documentaire à la télé, il s'est dit tiens, ça peut faire un bon film. Il a lancé la production, et puis en même temps, l'histoire n'est pas terminée hein, de la pauvre Paige. Je sais pas, en tout cas, ça va être difficile d'avoir un avenir à la WWE dans les conditions où elle est là, parce qu'apparemment, elle n'arrive pas à gérer sa vie donc. Voilà, tu peux pas faire une carrière au niveau à la WWE quand t'es à côté de la plaque comme ça, hein. C'est assez violent. En plus, elle est en train de pourrir le peu de reste de carrière qu'a Alberto Del Rio à l'Impact Wrestling. Même si lui doit être à peu près fautif dans l'histoire, hein. Je pense qu'ils doivent bien être complémentaires les uns des autres. Voilà, c'est la cocaïne, hein. Ça fait des ravages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi?
Ça, on n'a pas confirmé.
Ça, bah, tu regardes le nez en trompette de Del Rio, putain, t'as vite compris. Non, c'est les ravages de la drogue. Hein. Tu pars pas en couille comme ça, alors que t'as d'un côté un contrat à WWE, et puis de l'autre, Del Rio, voilà, les fédérations se battaient un peu pour l'avoir jusqu'ici. Là, maintenant, qui c'est qui va vouloir le payer à prix d'or, hein.
Ouais.
Le pauvre.
C'est bien. Ça devient compliqué. Enfin, le pauvre, de toute façon, peut-être on saura un jour qui est responsable de quoi. Mais bon, c'est compliqué. Puis c'est comment? Non, mais c'est juste.
C'est rock'n'roll.
Voilà, c'est juste triste. Parce que... Ouais, c'est rock'n'roll qui me disent. Non, mais c'est juste triste parce que malgré tout ce qu'on peut dire, les blagues qu'on peut faire, Paige, ça reste une des meilleures catcheuses de la WWE des 10 dernières années. Mm. Enfin, pour moi, en tout cas. Ça reste quand même une des premières anti-divas et une des premières à aller à contresens de ce que faisait la WWE en arrivant. Donc voilà, au
après,
moins.
Après, trop vite. Elle est arrivée le premier jour, elle a gagné son titre des championnes féminines, là, 21 ans, je crois, vous l'avez, 21, 22, tout cassé. Voilà, elle a fait le tour de la question en même pas un an, donc Effectivement, après.
Après, t'as eu une époque où il n'y avait pas de concurrence aussi. Donc, c'est ça aussi. Enfin bon, on va essayer de vous remonter le moral avec la news numéro 3. La news numéro 3, je ne sais pas si ça va vous remonter le moral. Peut-être si vous regardez l'UFC. C'est les rumeurs qui vont bon train sur le départ de Brock Lesnar de la WWE après SummerSlam. Puisqu'on a pu le voir accompagné de Paul Heyman aux locaux de l'UFC à Las Vegas début juillet. Une rencontre troublante puisque Brock est parti de l'UFC, on le rappelle, après avoir reçu une suspension de l'USADA, la fédération, fédération indépendante de contrôle antidopage aux USA, après un test de dopage raté qui suivait sa victoire contre Mark Hunt à l'UFC 200 en juillet 2016. Pour rajouter un petit peu de l'huile sur le feu, John Jones, donc le champion actuel poids lourd de l'UFC, tout juste sorti de sa victoire contre Daniel Cormier à l'UFC 214, a appelé Brock à venir se prendre une dérouillée s'il le veut. Brock, sur Twitter, lui a dit simplement « Attention à ce que tu demandes, gamin. » Bon, rien de concret, mais ils oublient tous les deux que Lesnar va quand même devoir régler de gros soucis donc avec l'USADA, puisque il n'a pas purgé sa suspension de 1 an, puisque il a décidé de prendre sa retraite hein, juste après le match, comme par hasard. Et donc il doit, avant de faire un quelconque match à l'UFC, être testé aléatoirement pendant 4 mois. Donc ça c'est le règlement pour n'importe qui. Plus normalement purger sa peine de enfin son c'est 1 an comment de d'interdiction de match. Après, il y a eu aussi, alors là j'ai pas les détails parce que ça devient super compliqué, mais il y a eu aussi des histoires d'interdiction de match qui ont été réduites avec négociation de blablabla. Mais pour l'instant, Lesnar est booké jusqu'à SummerSlam. Et donc voilà, et Heyman, toujours pour rajouter de l'huile sur le feu, a dit en interview, alors je ne me souviens plus où, qu'il n'était pas impossible de voir la bête avec deux ceintures, celle de la WWE et celle de l'UFC. Alors, toute cette histoire, Ring, comment tu le vois? Déjà, est-ce que finalement c'est pas le bon moment pour Lesnar de s'en aller? Il a eu ses chèques, il n'est pas venu très souvent, mais juste assez pour qu'il soit toujours entre guillemets excitant. Est-ce que finalement on a encore besoin de Lesnar?
Bah, c'est la dernière grosse star du roster, hein, comme on dit souvent, hormis John Cena. Donc, ils en ont besoin à la WWE, mais visiblement, ils en ont aussi besoin à l'UFC, parce que l'UFC a eu des scores un petit peu décevants là, sur les derniers mois. Ils sont aussi un petit peu à court de stars.
Oui, bah
Voilà.
McGregor est parti faire son match de boxe contre j'ai plus
Floyd Money
Floyd
Mayweather.
Mayweather. Donc ça c'est programmé pour je suis août.
Ouais, je crois que c'est ça, fin août, début septembre.
Je crois que c'est commenté par
En
Mauro
plus,
Ranallo.
ah, magnifique.
Et oui.
Magnifique.
Et oui,
Tout ça pour voir.
c'est pas pour rien qu'ils sont allés le récupérer hein, la WWE Ranallo, il s'est tapé, je sais plus, il a eu je crois que Je sais plus s'il a eu un deal à la New Japan. Enfin, en clair, dès qu'il est parti de la WWE, tout le monde se l'arrachait, hein, Ranallo. Donc voilà, il a engrangé les petits contrats, les soirées comme ça à droite à gauche. Et je pense que la VVE s'est rendu compte. C'est un peu la mentalité de la WWE d'être possessif, même avec les gens qui sont
C'est
partis.
ça. Mais bah, quand ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur.
Ouais.
Ouais, non, bah non, il faut faire revenir Mauro Ranallo. Mais ouais, alors le John Jones, c'est Walter White, hein, c'est pas un ouais, c'est
C'est
pas le
Walter
champion heavyweight, donc il y a une différence de gabarit quand même entre les deux, ils sont pas dans la même catégorie. Donc voilà, l'UFC là, elle vient rechercher Brock Lesnar pour avoir une star et faire un match un petit peu hors norme. Donc ça peut que être bénéfique pour tout le monde en vérité, hein. Ça va rapporter des ventes à l'UFC, de la pub à l'UFC, du buzz. Ça va remettre Brock Lesnar sur la carte encore du mainstream et bah du coup, il serait pas trop perdant à la WWE de le laisser partir pour faire son match et puis revenir après. encore une fois, auréolé sûrement d'une victoire. Ça dépend après comment que ça se passe contre John Jones, mais comme il y a une différence de gabarit, il y a quand même de fortes chances que Brock Lesnar puisse le battre, hein, parce qu'il est quand même plus costaud.
Après, ils ont quand même le règlement parce que Lesnar il va devoir perdre du. Je sais pas comment il va faire, mais il va devoir perdre de la
Bon, je pense
musculature.
qu'ils feront, ils
Ou,
feront une exception. Ouais, lui, il va sûrement s'affiner, puis l'autre va prendre du poids. Et puis,
Ah, mais ça, c'est vraiment l'UFC. Hein. C'est un truc. Enfin, autant j'aime bien regarder les matchs, etc. Mais quand tu regardes le business derrière l'UFC, mais le nombre de fois où ils cassent leurs
ouais.
règles, ou genre finalement ça, parce qu'en fait, enfin, même si c'est un vrai sport, l'UFC. Ils gèrent leurs trucs comme justement la WWE gère
Oui.
le catch. C'est aussi ce qui fait leur succès. Mais dans le sens où t'as des gens qui vont avoir mérité leur match contre, je sais pas, celui qui a la ceinture, quoi, qui sont deuxième, ou peut-être quelqu'un qui est troisième dans le classement et le deuxième est indisponible ou décide de plus catcher pendant un an. Mais ils vont quand même attendre, ou alors ils vont aller chercher quelqu'un qui est un poil plus bas, qui vient d'avoir une victoire, mais qui est un peu plus charismatique. Donc ouais,
Ah, il
c'est
faut
quand
des
même
stars, hein. C'est comme tout, hein. Donc
ça,
ça se travaille.
un truc assez sale, je trouve, dans l'UFC.
Voilà, bah, ça va apporter du buzz, hein, tout ça. Donc c'est plutôt bénéfique d'un côté comme de l'autre. Moi, je suis curieux, j'ai bien envie de le voir, hein, ce match entre Brock Lesnar et John Jones. Et puis voilà, bah, ça va. Mais alors, du coup, il faut qu'il reprenne du service dans l'UFC parce qu'il a pris sa retraite officiellement, Brock Lesnar. Donc faut qu'il casse sa retraite, qu'il se réintègre au truc de l'USADA. Donc ce sera pas avant un an, hein, je pense, le match si c'est validé.
Ouais.
Et on a parallèlement à ça, on a aussi une championne de l'UFC là, Chris Cyborg, qui a lancé un défi à Becky Lynch, hein, si je dis pas de bêtises.
Ah
Ouais,
bon?
ouais,
J'avais
ouais.
pas vu ça.
En parallèle, le défi, elle a envoyé un petit tweet là à Vince ou à Triple H en lui disant, maintenant, bah moi j'aimerais bien donner-moi un Becky Lynch. Donc voilà, soit. Il y a quand même de plus en plus de liens entre l'UFC et la.
Ouais,
Et.
touchez pas
Ouais,
à Becky, s'il vous plaît.
y a comment Ronda Rousey aussi qui a créé un clan de Four Horsewomen là, et qui se prétend les vrais Four Horsewomen. Donc il y aura sûrement aussi une petite histoire qui va se monter contre Charlotte et compagnie. Voilà, on va chercher les stars à l'UFC, hein, histoire de rapporter du buzz. Alors après, faut voir ce que ça donne. Au niveau des matchs, au niveau des intrigues, au niveau des storylines, mais c'est bien toute cette émulation, hein, ces ponts qui se créent entre les deux fédérations.
Je crois qu'on a vu Rousey à je ne sais plus quel pay-per-view il y a pas très longtemps. Enfin bref, j'ai vu des images WWE d'elle venant. Alors est-ce que c'était un pay-per-view où elle est venue aux locaux? Mais bref, avec serrage de main, avec Triple H et tout ça. De toute façon, Rousey il tourne autour
Oui.
depuis ça fait depuis son passage à Mania, quoi. Donc oui, non, c'est sûr, ça peut être que bénéfique. Je sais plus ce que j'allais dire sur Lesnar. Ouais, j'ai du mal, ouais, j'ai du mal à imaginer le truc. Ah oui, et Cyborg. Donc du coup, j'étais pas au courant parce que je suis plus du tout. J'ai suivi pendant quelques mois l'UFC, mais là, je ne suivais plus du tout. Elle a gagné, Cyborg.
Ouais.
Donc du coup, elle est championne. Parce que il y avait toute une polémique pendant un temps sur le fait que elle refusait de se battre, ou elle faisait semblant qu'elle était malade tout le temps ou qu'elle avait un truc,
D'accord.
etc. Donc apparemment c'est une grosse
Ouais,
chieuse.
une espèce de diva.
Mais ouais. Alors je vais te laisser la parole pour un segment spécial. C'est le segment point G avec. Avec Ringside, qui va nous parler du G1 à la New Japan Pro
Voilà un
Wrestling.
G1 Climax, le plus gros tournoi de l'univers du catch, hein, international, il n'y a pas plus gros. Je crois qu'on est à 19 journées de combat. Toutes les plus grosses stars de la New Japan, hein, qui sont réunies pour s'affronter, y compris les champions en titre. C'est un tournoi qui fonctionne au point. Donc vous faites une victoire, ben, vous avez 2 points. Une défaite, c'est 0 point. Le match nul, c'est 1 point. Donc là, je crois qu'il y a eu la 11e nuit cette nuit. Moi, je me suis arrêté à la 10e journée. Il y a 2 blocs. Donc, bloc A, sur les 10 journées qui sont passées, il y avait 8 points à prendre. Hein. Puisqu'il y a une journée, c'est le bloc A, journée, c'est le bloc B.
C'est pire que la
C'est
Ligue 1
pire
pour
que la
toi.
Ligue 1. Donc voilà. Non, il y avait 10 points à prendre. Je vous dis 8 points. 10 points, pardon, évidemment. Hein, 5 jours, 2 points.
Alors
Les gagnants, bah, c'est pas
les
fini
gagnants,
encore.
oui.
Hein, mais les meneurs, Kazuchika Okada, le champion en titre, c'est le seul à avoir tapé les 10 points. Donc vous pouvez. Alors si vous aimez le bon catch, vous pouvez regarder tous les matchs de Kazuchika Okada. C'est que du bon. Déjà, pour être clair, il n'y a pas de mauvais matchs. Hein. Il y a juste des matchs qui sont mieux que les autres. Alors, je vous mettrai une liste, je pense, dans les commentaires. Peut-être des matchs vraiment à voir si vraiment vous n'avez pas le temps. Parce que sinon, ce serait trop long. Hein. Sur 10 journées, il y a au moins 3-4 matchs qui valent le coup par soirée. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il y a des histoires qui se nouent au niveau des tournois. On a notamment les vétérans Yuji Nagata d'un côté dans le bloc A et Satoshi Kojima dans le bloc B, pardon, qui sont à 0 point à l'heure actuelle, donc ils ont fait que perdre leur match. Mais alors à chaque fois, c'est des matchs fantastiques avec des affrontements donc contre les genoux de la fédération qui sont tous en pleine bourre. Sur la première journée, par exemple, vous pouvez avoir Yoshihashi contre Yuji Nagata, qui est un exemple d'histoire qui se forme autour du au, en un match, hein, parce que les histoires se forment dans les matchs plutôt à la New Japan plutôt que dans des storylines à côté. On peut noter aussi la bonne prestation de Zack Sabre Jr., qui a quand même réussi à faire abandonner Hiroshi Tanahashi, le John Cena japonais, hein, l'ancien champion intercontinental actuel, et puis plusieurs fois champion IWGP Heavyweight. Grosse surprise quand même, ce Zack Sabre, cette petite tablette là, anglaise, qui arrive à faire taper le champion Tanahashi, même s'il est blessé. C'est la seule défaite que concède Tanahashi depuis le début du tournoi. Il est à 8 points, c'est lui le leader, Tanahashi, du bloc A. Derrière lui, on retrouve Tetsuya Naito, le patron d'Ingobernables des Rapones. Zack Sabre Jr., justement, qui fait un gros tournoi, puisqu'il est aussi à 6 points derrière. Ça se bouscule aussi, toujours à 6 points, avec Togi Makabe, le vétéran. Bad Luck Fale, le géant de la New Japan, qui est aussi à 6 points. Hiroki Goto, l'éternel second, l'éternel perdant, il est à 6 points, il est là aussi. Tomohiro Ishii est là également. Donc tous ces gars-là peuvent se retrouver dans le match final, hein, du bloc A à la tête, et puis passer pour la finale pour gagner le tournoi. On notera Kota Ibushi qui est que à 4 points. Il est revenu à la New Japan. Il est fantastique, mais bon, c'est pas lui qui va marquer cette année, je pense. Yoshihashi reste à 2 points, donc Nagata 0. Dans le bloc B, Kenny Omega est à 8 points. Derrière le champion, donc Okada qui a 10, hein, je vous ai dit. Et on a aussi Evil de Los Ingobernables des Rapones qui a 8 points derrière, qui a fait aussi un très bon tournoi. Sinon, Toru Yano est à 2 points. Le rigolo de service qui a fait que des matchs rigolos comme d'habitude. Juice Robinson, l'ancien CJ Parker de la NXT, est à 2 points, mais lui aussi fait un tournoi exceptionnel. Ses matchs sont particulièrement bons contre Okada, contre Minoru Suzuki. Je vous conseille ces matchs-là. Il est en train d'exploser, hein, ce mec-là. Il était imbuvable à NXT, mais c'est une révélation complète là au Japon. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Kenny Omega, donc 8 points. Vous pouvez voir aussi tous les matchs de Kenny Omega, hein, ça vaut le coup. C'est aussi une star qui marche sur l'eau en ce moment. Voilà, Minoru Suzuki est à 6 points. 6 points aussi Sanada, qui est sûrement la prochaine grande star, hein, de la New Japan. Michael Elgin qui a fait des gros matchs contre Okada. Il faut voir ce match-là contre Kenny Omega aussi. Ça, c'est des matchs qui sont inévitables cette année. Il est que à 4 points, malheureusement. Tama Tonga aussi, le chef en second du Bullet Club. Voilà, là j'ai fait le tour. Minoru Suzuki est à 6 points.
C'est bon.
Voilà, pas vous embêter plus longtemps. Voilà, mais il n'y a rien à acheter, hein. Ce tournoi, c'est exceptionnel.
Juste pour rappeler les règles, du coup, ce qui se passe, c'est au bout de combien de tours en fait que les meneurs de chaque bloc
s'affrontent. Eh ben, sur la
du
dernière
coup.
journée, donc je crois qu'il y a 18 journées, une fois que tout le monde s'est affronté, voilà, au niveau des points, ça dépend ce qui ressort. Et le finaliste du bloc A affronte le finaliste du bloc B, ça ce sera pour la dernière journée. Et on aura le champion. Donc là, comme c'est parti, on a Okada qui est en tête d'un côté. Donc on pourrait se retrouver soit sur un classique Okada Tanahashi. Mais bon, au début, tous les espoirs passaient sur Naito. Il n'est pas encore éliminé. Donc on pourrait se retrouver sur un Naito Okada. Mais je vois mal Okada pas être dans la finale. Hein, même s'il est champion IWGP.
D'accord.
Je me demande même si le tournoi va pas être pour lui. Parce que là, en ce moment, il marche sur l'eau. Je vous conseille tous les matchs de Okada depuis le début de l'année. Il faut voir aussi l'ambiance qu'il y a dans le public.
Prenez
Oui,
un
voilà, non,
week-end.
mais si vous aimez le bon catch. Mais c'est en ce moment la New Japan, ils sont en feu. Il faut voir le public. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux. Tout le monde est derrière les stars à fond. C'est des vraies stars, les catcheurs là-bas. Il y a pas de ce public en demi-teinte qu'on peut retrouver à la WWE. On sent vraiment qu'on est en ce moment dans une dynamique qui est assez exceptionnelle. Et ça fait plaisir de voir des shows de catch comme ça qui sont aussi spectaculaire et avec une ambiance de feu, voilà, qui va crescendo tout au long de la soirée. Moi, je vous conseille, c'est que du bonheur.
Et ben on va repartir sur le business WWE avec la news donc numéro 5, si je compte celle de Ringside, c'est le free agent le plus célèbre de la planète qui va quitter SmackDown après SummerSlam. Décidément, tout le monde quitte quelque chose après SummerSlam. En effet, on apprend par Wrestling Inc. que Super Cena est booké pour les émissions et pay-per-view de Raw qui suivront donc le pay-per-view le plus grand pay-per-view de l'été. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, Cena sera présent en show live non télévisé pour Raw dès ce mois-ci aux États-Unis. Et même s'il affronte Nakamura donc cette semaine, enfin la semaine où on enregistre à SmackDown, pour une chance au titre contre Jinder Mahal justement à SummerSlam. Enfin, on verra donc plus précisément Cena à Raw le 21 août, il est prévu, mais pas à SmackDown le 22. Il sera aussi donc à No Mercy le 24 septembre d'après WWE.com. Merci. Alors, Ringside, nouvelle question. Super Cena s'en va. Talking Smack aussi. Sabotage du show bleu par Vince ou décision de Cena d'aller au top show?
Ouais, peut-être qu'il a envie de retourner au top show, John Cena, effectivement. Alors là, on va rentrer dans une ère assez spéciale pour la WWE parce que ça va être le renouvellement du contrat tout doucement avec la télé. Donc ils ont intérêt à rattraper les scores de merde qu'ils ont fait en début d'année quand il y avait la concurrence du football américain et du baseball. Hein. Ils ont fait vraiment des scores médiocres cette année. Donc là, ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour rattraper le coup. Il va falloir faire des gros scores. Donc il faut sortir l'artillerie lourde. Donc bah, ça passe par les matchs qu'on va avoir là cette semaine. Hein. Kevin Owens, AJ Styles d'un côté, Nakamura, John Cena. Voilà, c'est des shows qui sont une émission qui est quasiment immanquable. Donc ça devrait faire déjà des gros scores. Ils vont sûrement sortir la tirée lourde pendant tout l'été parce qu'il n'y a pas de concurrence là, à l'heure actuelle hein, contre la WWE au niveau de ce qui est de la télévision, au niveau des weekly. Donc c'est le moment de taper et de faire des gros scores. Donc ça se traduit effectivement par ces gros matchs à SmackDown et puis par voilà, John Cena, le plus gros draw, ça reste le plus gros draw de le mec qui rapporte le plus de pognon et qui rapporte le plus de spectateurs, de téléspectateurs. Donc on va l'envoyer aussi à Raw histoire de gonfler les audiences. Et voilà, on sera sûrement à un retour de Triple H incessamment sous peu. Je pense que SmackDown c'est quitte ou double parce que je suis pas sûr qu'il soit autant attaché que ça au show. Maintenant, je pense que ça rapporte pas mal de pognon via les pubs quand même. Mais si vraiment ça devient trop compliqué et qu'ils commencent à perdre des thunes et que ça va jouer là-dessus, je pense qu'ils n'hésiteront pas à s'aborder le show et à se concentrer sur Monday Night Raw si vraiment ils n'ont pas le choix. Mais c'est vrai que je vois bien un abandon des brands hein, divisé d'ici incessamment sous peu aussi. Parce que j'ai pas l'impression que ça porte ses fruits autant qu'il l'aurait voulu. Ce serait plus simple pour moi, plus intéressant peut-être d'avoir un vrai roster avec des gens qui seraient uniquement à SmackDown, mais sans rien d'officiel, quoi. Et puis après, tu joues sans que ce soit trop carré comme ça. Bon, maintenant, rien n'est fait, rien n'est décidé. Mais voilà, il y a une volonté de booster les audiences TV. C'est pour ça qu'on a des pay-per-view aussi qui sont un petit peu tristounets, parce que maintenant, ils vont mettre la. Il va falloir faire des scores à la télé, donc ça va être pendant les mois qui viennent, histoire de pouvoir renégocier le contrat avec des cacahuètes d'un côté, quoi.
Ouais, c'est le comment? J'allais dire le cercle vicieux, enfin le cercle vicieux du network en fait, c'est que le network j'imagine une très bonne source de revenus, mais je pense pas que ça leur fait des pics de revenus tels qu'ils avaient à l'époque des pay-per-view, des vrais pay-per-view. Et donc du coup, ça fait que ils ont plus cette motivation de vendre du pay-per-view parce que bah, les gens déjà ils regardent les pay-per-view, ils peuvent à chaque fois le regarder un mois gratuit, limite des moments ils peuvent en regarder deux, ils peuvent regarder celui qui est avant. Alors avant Mania c'est quoi?
Royal Rumble?
Je sais plus.
Donc tu parles de juste avant?
Non, 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 je veux dire juste avant en fait. Il y a le pay... En fait, je me souviens que le
Roadblock?
dernier Mania, on pouvait.
Je crois que c'était
Ouais,
Roadblock le
voilà,
dernier qu'ils avaient
peut-être
rajouté.
Roadblock. Je me souviens que le dernier, du coup, on pouvait regarder le dernier pay-per-view avant Mania, plus Mania, voire s'abonner à Mania et regarder le pay-per-view d'après. Enfin bref. Donc, du coup, les gens, par exemple, les gens qui suivent pas forcément le catch, mais qui regardent de temps en temps quand ils tombent dessus, etc. Ils n'ont rien à faire le soir de Mania, ils vont regarder Mania. Ils vont profiter du mois gratuit, ils vont pas s'abonner, ils vont annuler. Donc déjà, il y a ça, il y a tout ce
Bah
revenu qui
sur
part...
le dernier trimestre, il y a plus de gens qui sont désabonnés du network que des gens qui ont essayé le network. Donc c'est
Ouais. Enfin, je veux dire, ils ont raison, les gens. Enfin, même si j'ai bien aimé Great Balls of Fire... Quelle affiche ces derniers temps méritait vraiment d'être enfin, je dis d'être abonné. Exciter vraiment quelqu'un qui n'est pas vraiment à fond dans le catch, à part si on suit vraiment ça toutes les semaines comme nous, mais voilà, y a pas eu d'affrontement vraiment de colosse ces derniers temps, et y a eu des beaux matchs, mais il n'y a pas ce. Oui, c'est sûr qu'il n'y a
Bah,
pas
Jinder
cette.
Mahal, Randy Orton, voilà quoi.
Non, mais alors, Jinder Mahal. Déjà, Randy
Déjà.
Orton, je pense que ça. Non, mais ça assure un certain nombre de personnes qui veulent voir le truc. Mais en même temps, je pense qu'il est un peu surévalué au niveau de son attrait pour le grand public. Randy Orton, c'est pas du niveau de John Cena, ou c'est pas même pas du niveau de, je sais pas, je pense même que Lesnar a plus de résonance et fait
Oui,
plus venir
carrément.
les gens, le grand public que Randy Orton, parce que les matchs de Lesnar sont imprévisibles quoi, tout le temps. On sait pas comment ça va se passer, on sait que ça va pas ressembler à du catch aussi. Donc du coup voilà. Mais on en reparlera dans le petit débat qu'on va avoir à la fin. On va passer à la news numéro 5, la dernière news. C'est la news. Alors, permettez-moi un jeu de mots de merde. C'est la news. Ti, on est dans la merde. La Global Force Wrestling, donc la TNA, voilà, super jeu de mots. Qui a tenté. Donc, c'est. Dernière semaine, hein, je ne saurais pas le situer exactement, mais c'était au mois de juillet, tenter de déposer au Bureau des brevets et marques américains 4 trademarks, bien entendu, liés au Broken Mat. Mat Hardy, donc ils ont essayé de déposer Brother Nero, Broken Brilliance, Vanguard One, hein, le drone, et Broken Mat. Donc chacune de ces demandes a été refusée. Pour différentes raisons. Je voulais faire un mini-jeu, mais ça va prendre trop de temps. Je voulais faire un mini-jeu où je te fais deviner.
D'accord.
Bon, allez, non, on va dire rapidement. Pourquoi Broken Mat ça a été refusé? T'as une, tu peux deviner une fois, vas-y.
Je sais pas pourquoi ça a été. Parce qu'ils ont pas m'attardé dans leur roster, donc.
Alors non, parce que Broken Mat ça a été refusé parce que Matt Hardy a fait la même demande avant
Ok.
eux. Et a été aussi refusé. Donc du coup, là, ils sont un petit peu en train de réévaluer le truc, comprendre qui a tort, qui a raison, etc., j'imagine. Mais en tout cas, pour l'instant, ni Matt Hardy, ni Global Force Wrestling ne
peut
peut
utiliser le truc.
le ouais voilà ne peut utiliser la marque. Brother Nero. Pourquoi ils n'ont pas pu utiliser Brother Nero? Enfin, pourquoi ils n'ont pas pu
Déjà
breveter
quelqu'un qui a le
Brother Nero?
qui a le brevet.
Celle-là, elle est facile, par contre.
Oh,
Enfin, elle est facile.
facile. Ah
Elle a été
oui.
refusée. Donc, du coup, car. Alors, la première raison est pas facile, mais il y a deux raisons. Parce que la Global Force Wrestling n'a pas précisé s'il s'agissait d'une personne vivante ou non. Et si c'était une personne vivante, là, c'est facile à deviner. Il faudrait le consentement de Matt Hardy, dont le deuxième prénom est Niro.
D'accord.
Non,
Jeff
Jeff Hardy.
Hardy, son
Oh là
deuxième
là,
prénom,
non,
c'est Niro.
Jeff Hardy, j'ai dit Matt Hardy. Consentement de Jeff Hardy, dont le deuxième prénom est bien Niro, en fait. C'est bien sur sa carte d'identité Broken Brilliance. Pourquoi ils n'ont pas pu breveter Broken
Ça
Brilliance?
doit déjà exister. Il va y avoir une marque de trucs pour laver la vaisselle, non?
Non, c'est vachement obscur, justement. Ça a été refusé car la Global Force n'a pas précisé quelle signification a cette expression dans le
D'accord.
catch, ou si c'est juste, alors je saurais pas le traduire entre guillemets, term of art, enfin un mot artistique, un mot, je sais pas, ou si c'est juste un term of art dans l'industrie du catch. En clair, à mon avis, ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Broken? Ça veut rien dire. Vous pouvez pas. Faut définir votre truc avant de le breveter.
Right.
Et enfin, Vanguard One. Pourquoi Vanguard One a été refusé?
Ce qui, je sais pas, c'est pas une personne. Il fallait le consentement des
Ben,
parents.
il y a eu juste avant.
Ah,
Ça a
c'est
été
lui.
refusé car il existe une autre
Ah.
marque qui s'appelle Vanguard One. Et que cela pourrait prêter à confusion. Bon, c'est pas une marque qui est reliée au catch. J'ai pas vérifié ce que c'était, mais c'est pas une marque de drone, dans tous
Ok.
les cas. Alors, et puis ma petite question pour finir. Est-ce qu'on va oublier le gimmick Broken avant que cette histoire finisse? Est-ce qu'il va devenir obsolète?
Obsolete, delete. Ouais, je sais pas s'ils arriveront finalement à l'avoir précisément, voilà, ou du compte la Global Force Wrestling va se lâcher, enfin, va lâcher l'affaire. De toute façon, je vois pas pourquoi ils veulent garder le truc et il y a personne d'autre qui pourra l'utiliser chez eux. C'est juste pour faire chier le monde. Puis s'ils savent même pas remplir des papiers, hein, à Impact Wrestling pour.
Apparemment, ils comprennent pas le principe de brevet,
Ouais.
parce que s'il y a bien une démarche durant laquelle il faut être ultra précis dans ce qu'on dit, c'est quand on dépose un
Mais c'est
brevet.
pas
Donc
étonnant,
tu
hein,
peux pas
ça a
déposer un
toujours
brevet
été, ça a toujours
sur
été
un
des
nom.
branques là-bas, hein, donc voilà, je pense qu'à terme, Matt Hardy réussira à avoir le truc parce qu'ils sont vraiment trop mauvais, mais d'ici là, est-ce que ce sera pas l'heure de la retraite pour Matt Hardy, je ne sais pas. Mais ouais, tout ça, ça fait rigoler. Il peut se lancer dans sa gimmick sans forcément avoir les mêmes. Comment dire, les mêmes mots, voilà, je pense pas qu'ils vont sortir un Vanguard One à WWE, hein, mais bon, soit.
Ouais. Non mais bon, moi je de plus en plus, ouais, maintenant je suis de plus en plus convaincu que finalement ça va rester des références et des clins d'œil au
Ouais.
public, quoi. Ça va pas aller plus loin, même s'il y a quelques semaines, pendant Raw, ils ont quand même mis la grosse
Ouais.
couche. Ils ont sorti des phrases. Est-ce qu'on va devenir obsolète? On se sent broken,
Mais
tout
ça n'a
ça.
aucun
Enfin bref.
sens. Si tu le prends en sortie du contexte, ça voulait
Ah
rien
oui, non
dire.
mais
Mais bon.
pour les gens qui connaissent pas le passif, ça peut paraître complètement débile. Bref, on va passer donc à la dernière séquence. C'est le débat, un segment que j'ai appelé Parlons Stiff. Alors, nous n'allons pas parler de cheveux, bien entendu, mais d'un sujet qui taraude les marques et les smarts ces dernières semaines. C'est SmackDown et plutôt l'avenir de SmackDown. Alors, je remercie, donc c'est grande dédicace à Joe Héroux dans les commentaires sur YouTube, hein, qui nous a un peu suggéré ce débat. Mais je vais reformuler la question par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, alors, c'est un peu une question un peu osée. Est-ce que SmackDown peut devenir l'égal de Raw? Et si oui, comment? Et pour faciliter les choses, j'ai divisé en juste trois points. Écriture, booking, roster. Donc d'abord, sur l'écriture. Est-ce que tu penses que SmackDown peut faire mieux? Est-ce que finalement ils font moins bien que Raw? Tu en penses?
Bah, à l'heure actuelle, je trouve que c'est moins bien que Raw. T'as vraiment, voilà, on est embourbé avec Orton et Jinder Mahal dans un truc super classique, super old school qui fonctionne pas. De toute façon, t'as un champion WWE qui est en mid-card et qui est pas du tout crédible, hein, quoi qu'on puisse en dire. D'accord, ils ont testé un truc, machin, mais ça fonctionne pas, quoi. Le résultat est pas là en Inde non plus. On est obligé de ressortir le vieux Kali pour essayer de faire un semblant de surprise, de remettre un petit peu de vie dans la rivalité. Il y a des choses comme que Nakamura qui débarque auréolé de tout son statut de star, mais au final, il apporte rien de spécial au show, à part des matchs moyens. Les stars en devenir comme Corbin, c'est quand même pas terrible. À côté de ça, t'as John Cena qui est finalement part-timer et puis qui va aller à Raw. AJ Styles et Kevin Owens, ils sont coincés autour du titre US. Donc c'est bien pour valoriser le titre US, mais eux, ils devraient être autour, comme j'ai déjà dit, du titre WWE. Donc ils ont enlevé le Miz pour l'envoyer à Raw. À la place, maintenant, on a Maria Kanellis et son mari. C'est quand même un cran en dessous. Le New Day est là, mais bon, le New Day, c'est que ça fait quand même 3 ans qu'il nous saoule. Ça fonctionne parce que les Usos, ils sont un peu. Ils ont bien compris le truc et ils ont créé leur personnage qui fonctionne plutôt bien. Mais voilà, dans l'absolu, c'est assez mou du genou, c'est assez dispensable. On n'a pas envie de se jeter sur le show chaque semaine. Hein, c'est. On est plutôt à attendre des pay-per-view qui sont décevants. On sent bien qu'ils ont injecté ce qui fonctionnait, ils ont été l'injecter à Raw, et maintenant on a un Raw qui est plutôt plaisant, mais ce qui fait que le succès de Raw, ça reste les main eventers, ça reste notre ami Roman Reigns, Braun Strowman, Brock Lesnar, Samoa Joe, quoi, les poids lourds, ceux qui nous font rêver là-bas. Le Miz, bon, c'est sympa sa rivalité, mais son petit truc, son mistourage, ça fait rigoler, mais on est encore dans la même rivalité avec Dean Ambrose, etc., donc ça patine aussi un petit peu. Ouais, ils pourraient faire mieux à SmackDown que à Raw, ils l'ont déjà fait, mais ça demande d'avoir une construction un peu plus intelligente que ce qu'ils ont là, avec moins de trucs réchauffés, des stars qui sont des vraies stars, parce que là ils ont vraiment appauvri le roster, hein, entre Randy Orton dans le haut du pavé, Kevin Owens au mieux.
Ouais, Là, tu vas couvrir tous les sujets. Enfin, les trois parties. Je vais prendre ma petite minute quand même pour parler de l'écriture. On va mêler écriture et booking, hein, parce que c'est ce dont on parle. Même si j'avoue que j'ai suivi en demi-teinte ces derniers temps, mais je vais parler de ce qui m'a fait quitter un peu SmackDown, même si voilà, je regarde des clips YouTube, etc. Et le truc que je reprocherais le plus, c'est leur absence de consistance dans les personnes à qui ils donnent la ceinture. Alors bon, là ils en ont une de consistance, c'était Jinder. C'est pas la bonne consistance. Mais sinon. J'en avais marre, moi, quand j'ai arrêté de regarder en entier le show, j'en avais marre des... surtout pour les femmes, les matchs gauntlet à 6. Je crois qu'ils ont tapé un record. J'ai entendu il n'y a pas longtemps où ils ont réussi à faire genre 3 matchs gauntlet peut-être en un mois. C'est la belle preuve qu'ils ne savent pas qui mettre en haut haut de l'affiche.
Alors qu'ils ont Charlotte.
Et voilà, ils ont Charlotte, mais même
ils ont les personnes, mais ils les utilisent mal.
Je vais pas dire peu importe. Je vais pas dire peu importe la personne, mais il y a au moins 3-4 personnes. Et c'est pas. Mince. C'est pas Tamina. Ah, je me souviens même plus de la
Naomi.
Dine, de Naomi, voilà. Et c'est pas Naomi, hein, le bon choix, même si j'aime beaucoup Naomi. Naomi a un. Elle avait une bonne montée, mais une nouvelle fois, en fait, ils l'ont un peu donné la ceinture au mauvais moment, alors que les gens commençaient à croire en elle, mais pas au point d'être super fan.
Parce qu'en parallèle, ils ont perdu du temps à travailler Lana et l'arrivée de Lana. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'arrivée de Lana ?
Ouais, c'est important ça. Et donc voilà, il y a ce problème. Alors du coup, c'est surtout. Surtout, c'est féminin, mais il y a aussi ce côté avec les mecs où. Alors, je me souviens plus exactement comment ça se passait, mais j'avais aussi l'impression qu'ils avaient une période de flottement où ils savaient plus vraiment. En fait, tout a commencé, je pense, à vaciller une fois qu'on est sorti de Cena et AJ Styles, qui était le money maker de SmackDown. Hein, c'était la rivalité qui était un peu finalement le pic. C'est tout. SmackDown était vraiment sur une montée régulière au niveau de la qualité jusqu'à John Cena et AJ Styles qui était un peu le pic. Et après, ils n'ont pas su rebondir là-dessus, je trouve. On a eu aussi Randy Orton, Bray Wyatt, qui était pour le coup pareil, un côté inconsistant pour moi parce que c'était patate chaude hein, pour la ceinture. C'était une rivalité où on ne sait plus qui est face, qui est heel. On n'a pas des deux mecs particulièrement charismatiques, du moins dans l'écriture de la rivalité. Hein. Ils sont tous caricaturaux, ils ont tous des motivations qui sont assez étranges, voire changeantes. Hein. À un moment, Randy Orton, c'est un face qui veut juste tuer les Wyatt de l'intérieur. Et après, en fait, il devient carrément un mec machiavélique qui brûle la maison la cabane à campagne de Wyatt en regardant la caméra avec des flammes dans les yeux, avec un rire machiavélique. Donc, comment vous pouvez vous mettre derrière ce type-là, à part si vous avez aucune sensibilité pour le kayfabe, quoi. Mais bref. Donc voilà, beaucoup de mauvaises écritures, hein, je trouve, depuis AJ Styles Cena. Après le booking, finalement, si l'écriture donne pas de sens, le booking en a pas beaucoup plus, quoi. Donc du coup, il nous reste un peu les meilleurs workers qui font des bons matchs, mais qui apparemment passionnent pas forcément tout le monde. Parce que j'ai pas encore vu AJ Styles Owens du coup c'était il y en a eu un du coup je crois au dernier pay-per-view ouais. mais qui apparemment s'est fini un petit peu en flop d'ailleurs, ouais. Et qui marquait forcément les gens. Et si les gens sont pas aussi enthousiasmés, et quand je dis les gens je parle vraiment des fans de catch qui pourtant sont un peu plus, on va dire, un match de très bonne qualité malgré une rivalité pas terrible, reste un match de très bonne qualité, quoi, quand on est fan de catch. Et voilà, ça n'a pas fait de vague ni rien. Donc voilà, je pense qu'il y a un souci aussi dans peut-être le booking des matchs, le déroulement aussi des matchs. Est-ce que finalement, les gens qui s'occupaient de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont partis de l'écriture, qui sont partis à Raw, ou alors du booking, qui sont partis à Raw, parce que j'ai entendu, il y a pas, alors là pour le coup j'ai vraiment pas de source, mais j'ai entendu il y a pas très longtemps qu'il y avait un petit peu du turnover au niveau de l'équipe des auteurs. Donc voilà. Et finalement pour le roster, on va finir juste avec le roster. Si t'avais deux personnes à retirer du roster et deux personnes à mettre dans ce roster en choisissant à NXT ou à Raw. Comment tu ferais ? Je te laisse choisir.
Bah, déjà, en priorité, il faut enlever Jinder Mahal. Je vois pas Qu'est-ce qu'il fait
C'est
là?
le main
Voilà,
event.
il bah, sa place est à Main Event, tout à fait. C'est quand même le mec qui a rien gagné, qui faisait partie des FreeMBs, et maintenant qui est champion WWE. Alors je veux bien que ce soit sur un concours de circonstances ou ce que vous voulez, mais c'est pas. Tu construis pas ta fédération et tu mets pas ton champion sur un mec qui est pas du tout. Qui a rien gagné depuis 3 ans, faut pas déconner. Donc voilà, lui, il faut absolument qu'il dégage, même si j'ai rien contre lui dans l'absolu, mais il est pas à sa place. Hein. Et puis qui c'est qu'on enlèverait d'autres? Bah Nakamura aussi, hein, parce que c'est un échec. Donc voilà, tu peux retourner au Japon,
Alors, tu
Nakamura.
placerais où? Nakamura,
Le
tu
renvoie au
l'envoies au Japon.
Japon. Voilà, à moins qu'il nous sorte vraiment un gros
Comme
match.
un
Voilà.
charter.
Soit il nous ressort un gros match contre John Cena, soit il sert à rien là, à l'heure actuelle. Pour faire des matchs moyens en pay-per-view, son personnage il est caricatural. On voit qu'il n'a pas trop envie de se casser le dos à faire des matchs spectaculaires. Il n'a pas du tout son style, s'adapte pas du tout à la WWE. Donc à un moment donné, quand c'est un échec, autant qu'il retourne à la New Japan, voilà, nous faire un Wrestle Kingdom, un match de folie contre Okada, et on sera content.
Tu sais qu'il y a eu les rumeurs aussi il n'y a pas longtemps de la WWE qui voudrait balancer des gens. Alors, ils vont pas balancer Nakamura, mais balancer quelques stars à NXT, les faire venir de SmackDown ou de Raw à NXT. Enfin, j'imagine plutôt de SmackDown. Mais
Ouais, comme ça se faisait dans
donc.
le temps. Faire descendre quelques gars pour aller affronter les jeunes.
Bon, déjà, le premier, ça
Ouais.
sera Ziggler. Tout le monde sait que
Ziggler.
Ziggler.
Ouais, Ziggler, c'est un cadre aussi, un petit peu. Hein. Donc, il est là aussi pour driver les nouveaux. Hein. C'est le gros de son taf, c'est ça maintenant, hein, je pense. Hein. Qui c'est qu'on injecterait à SmackDown? Moi, je ferais bien monter Drew McIntyre de NXT. Je pense qu'il n'a rien à faire à NXT, il a le physique, maintenant il fait des matchs qui sont tout à fait du niveau d'un main event de pay-per-view. Il a tout ce qu'il faut pour gravir tous les échelons et arriver comme top star.
Il joue bien le, je trouve, il a une bonne personnalité de
Exactement.
face
C'est ça.
badass, enfin face
Ça peut être le
sérieux quoi.
babyface.
C'est pas un
Ouais,
face
ça peut être le
blagueur.
babyface dont on a besoin. À la WWE là parce que voilà qu'est-ce qu'on a en babyface? On a Roman Reigns qui est pas du tout un babyface au final.
AJ Styles.
Et AJ Styles ouais mais AJ Styles c'est pas franc du clowny non plus hein, son face turn hein, c'est aussi ça qui pose problème.
Ouais,
Lui il
c'est.
aurait dû être voilà, ça aurait dû être lui le héros de SmackDown sur les mois qui viennent de passer mais au lieu de ça, on a eu Randy Orton et compagnie. Qui c'est qu'on pourrait transférer de Raw qui aurait sa part à Roman Reigns? On peut venir Roman Reigns à SmackDown. Et puis voilà. Tu laisses le champ libre à Braun Strowman à Raw. Tu le ferais affronter John Cena et compagnie. Et voilà. Et avec ça, je pense que tu peux relancer l'émission correctement. Faire revenir le Miz aussi. Je pense que le Miz, sa place, elle est à SmackDown plus qu'à Raw. Et ramener, bon, je remettrai Chris Jericho à Raw avec Owens, ça va fonctionner bien. Puis remettre le Miz à SmackDown. Enfin bref.
Ah ouais. Donc ouais, Owens et Jericho, retour à Raw. Alors moi, j'ai pas vraiment de meilleures idées que toi, hein, à part le fait de ramener Bray Wyatt à
Ouais, bon, Bray Wyatt, c'est
NXT.
délicat pour lui, hein. Franchement.
Non, mais non, ce qu'il faut pour Bray Wyatt, c'est qu'il autant j'étais vraiment un avocat du fait de le séparer et de voir ce qu'il peut faire seul. Autant maintenant, je suis persuadé que non, il faut qu'il reprenne la famille,
Ouais.
la Wyatt Family, avec peut-être une chance dans les 2 ans Wyatt Family contre les Shield. Donc c'est un peu le meilleur truc qu'il pourrait faire. Mais donc voilà. Sinon ouais, Nakamura ouais. J'en parlais avec les derniers segments de Ah, Tozawa. Voilà. Mais en plus, j'ai fait le même nom. Ah! Donc, Tozawa. On voit que Tozawa, il fait beaucoup plus d'efforts que Nakamura, quand même, pour un peu développer son personnage, ne serait-ce que pour parler anglais. Donc, voilà. Bon, après, on a un mec. On a Tozawa qui est au milieu de sa carrière. On a Nakamura qui est à la fin. Donc, c'est sûr que. Ils ne doivent pas avoir la même motivation. Mais oui, non, clairement, SmackDown, je pense que là, il faut bouger mal de. Enfin, pas mal. Il faut au moins bouger 3 ou 4 pièces sur l'échiquier, quel que soit enfin, mid-card et main eventer, pour que ça redevienne intéressant. Et surtout, ouais, non, ce qui pourrit un petit peu SmackDown depuis longtemps, c'est Randy Orton et Jinder Mahal. Ça, c'est dingue que ça dure aussi longtemps. Hein. On a l'impression qu'ils ont pas d'autre solution, alors qu'ils ont les gens dans leur roster. Ils ont juste à switcher à la limite, foutre cette rivalité pourrie autour du titre US. Bon, après, c'est trop tard, mais. Mais donc voilà, et en plus ils n'ont pas entre guillemets pas beaucoup de ceinture. Ils n'ont pas le cruiserweight. Ils ont, c'est pas comme s'ils avaient le poids mort du cruiserweight à mettre dans leur show. Donc ils ont la place. Voilà, je vais pas aller plus loin. On est bien, on est monté assez loin dans cette durée de podcast. On va vous remercier de nous avoir écoutés. Je remercie Ringside une nouvelle fois.
Je t'en prie. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité et d'animer tout ça avec brio.
Merci. Ma brio est juste là. Si vous aimez les blagues pourries, n'hésitez pas à liker cette vidéo sur YouTube ou de mettre une petite note 5 étoiles hein, ou 6 stars comme Omega Okada sur iTunes. Vous pouvez aussi nous écouter sur PodCloud. N'hésitez pas à venir nous voir sur le Facebook facebook.com/ketchupcdc. C'est là où on poste tous les podcasts et de temps en temps d'autres choses. Hein. On va essayer de s'activer un peu plus là-dessus. Sur Twitter, twitter.com/ketchupcdc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je serai pas là pour SummerSlam. Hein. J'ai programmé mes vacances aujourd'hui, donc du coup, voilà. Si vous préférez les autres chroniqueurs, et ben regardez-nous pendant SummerSlam parce que je ne suis pas.
Profitez-en.
Et voilà, profitez-en. Vous aurez des vacances de Hank. Ah oui, je me suis même pas présenté au début, mais c'est pas grave. Vous nous connaissez. On vous souhaite une très bonne semaine. Pleine de catch, et on vous dit donc du coup à dans un mois pour Talking Catch numéro 7.
Ciao, ciao.
Salut!